et vous écoutez France Culture. Je veux rester là, à fixer le chrome du grille-pain et m'y perdre à jamais. Charles Burns, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Terreur intérieure et panique graphique ce soir dans Mauvais Genre qui se consacrera à Dédale. Dernier album paru chez Cornelius et premier d'une nouvelle trilogie de l'immense Charles Burns, le maître du noir intégral et de l'horreur au quotidien, nous a accordé un long entretien que nous diffuserons dans cette émission chronique en second temps où grand bien vous sera dit d'Anne van der Linden, de slasher de Charles Forsman et de sumographie de David Prudhomme et du dernier cauchemar romanesque et architectural de Michel Despailloles. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mauvais genre graphique, graphisme ce soir et je suis entouré d'Antoine Guillot, comment va-t-il ?
Eh bien il va bien, malgré les réveillons de fin d'année qui
pèsent toujours un peu. Voilà, il a réussi quand même à retrouver forme humaine après le 25
et laissons autres. Les auditeurs imaginer la forme que j'ai.
Voilà. Christophe Beer est là.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Beer, une actualité ?
Non, pas d'actualité.
Pas de problème digestif.
Aucun, non, tout va bien.
Oui, tout va bien, des cadeaux comme s'il en pleuvait.
Oh,
Père
oui.
Noël mauvais genre a été gentil pour Monsieur Bill.
Il a été très très méchant, oui.
Ah oui, le contraire, bon bah c'est parfait, c'est tout ce qu'on attend de lui. Et Céline Duchesnay.
Bonsoir.
Bonsoir, joyeux Noël. Enfin, posteriori.
Oui, post-Noël, oui.
Quelques cadeaux.
Eh bien, oui, quelques cadeaux tout de même.
Ouais.
Mais je préfère pas dire voilà. De quoi il s'agit. Je laisse planer le mystère.
Le secret sur les cadeaux reçus par Céline. Mais en attendant, pas de secret pour l'encyclopédie pratique des mauvais genres que nous allons ouvrir à la page.
Eh bien, à la page de Corinne Bornier qui me reçoit dans son atelier et c'est un atelier rempli d'ossements.
Des tas de bouts d'os, de petits os nettoyés avec soin, que j'ai triés comme des Legos. Voilà, les vertèbres d'un côté, les petits os de l'autre, les pattes d'un côté, les becs, les têtes. Principalement de volailles. Parce que nettoyer, c'est quand même plus cool que de l'agneau ou de bœuf ou des autruches. C'est venu de mon quotidien. C'est principalement ce que je mangeais à une époque, parce que j'ai arrêté la viande rouge, comme à peu près tout le monde. Donc voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Et après, oui, c'est vrai que du coup, je me suis habituée à la petite taille des os. J'ai pas encore commencé des pièces monumentales. Je pense pas que je le ferai, d'ailleurs.
Donc c'est parce que vous êtes une mangeuse de poulet que vous en êtes arrivée à faire des sculptures à base d'os de poulet ?
À l'origine, oui, mais depuis, ça fait maintenant un an et demi que je fais ce travail et je suis devenue végétarienne, je peux plus.
Enfin, j'imagine que tout le monde, quand il a fini de manger son poulet, n'a pas après envie ou l'idée d'en faire une sculpture. Qu'est-ce qui vous a happé l'œil, vous ?
Oh bah c'est, moi, je travaille avec plein de médiums différents, donc tout peut être art. Et donc là, c'est devenu comme des traits de crayon, en fait. C'est des traits de crayon, des touches de peinture. C'est un médium comme un autre. Hein. Et voilà, donc j'ai commencé à récupérer tous ces petits os. Et petit à petit, c'est la première pièce que j'ai faite, c'était une chaussure. Une vanity shoes, j'ai appelé ça, pied de poule, c'était une évidence comme ça. Et de là, je suis arrivée jusqu'à mon dernier soufflé, qui est beaucoup plus ambitieux.
Posées sur des socles, il y a donc des chaussures dites « vanité » entièrement composées en petits os. Un travail qui pourrait faire penser à de la dentelle tant il est délicat, comme par exemple ce corset qui semble cousu main. À la question de savoir de combien d'os il est composé, Corinne Bornier répond plutôt en poulet, elle en compte une bonne vingtaine. Et puis au fond de son atelier, on aperçoit une table dressée sur laquelle sont disposées des assiettes et des couverts. Il s'agit du dernier souper. Une installation plutôt apocalyptique car ce banquet renvoie à une fête qui aurait dégénéré de par le nombre d'assiettes et de verres brisés, un chaos où l'on découvre une couronne d'épines, une croix et des dizaines d'insectes qui se sont invités sur cette scène revisitée.
Mon travail est plutôt assez frontal et j'ai plusieurs clés pour que les gens comprennent mon travail. Donc il y a entre autres l'humour, il y a l'esthétique, l'humour, le bizarre, le singulier. Et donc oui, j'aime bien, tant qu'à faire, rigoler un peu, surtout avec la mort. Il faut en rigoler, il faut en rire. C'est un jeu en fait, je joue beaucoup. Moi, je suis comme un gamin, là, avec mes Lego. Une gamine, plutôt. Avec mes Lego, oui, c'est un jeu de mécano, quoi.
Alors, qu'est-ce que l'os de volaille apporte, par exemple, à cette couronne d'épines? Qu'est-ce que ça apporte en plus?
C'est la renaissance. C'est la résilience, la renaissance. Je fais tout revivre. Pas forcément, quoi. Il reste bien mort, mais la particularité de ces petits os avec toutes ces formes différentes, c'est qu'on voit vraiment des insectes vivants. Ils marchent, ils trottent, c'est ça que j'aime bien. Par exemple, là, le papillon, c'est des mâchoires de lapin. Voilà, il y a des antennes, ça galope. Là, j'ai fait une admirable petite souris avec une tête d'oiseau. Et j'aime bien cette sensation que l'humain n'est plus là, quoi. Tout en ayant beaucoup de vie. Je travaille sur la fragilité de notre existence et aussi sur le manque de protection. Donc j'ai travaillé sur la richesse, sur le monde du travail, sur l'enfance. Et donc sur la religion, c'est venu tout seul, ça revient régulièrement, qui ne nous protège pas non plus. Enfin, voilà. C'est un peu ça. Je travaille beaucoup aussi avec des symboles populaires. Enfin voilà, je pioche autour de moi. Donc la religion est présente un peu partout. Moi j'ai grandi forcément. J'ai une éducation catholique. Je suis une sympathisante qui doute beaucoup. C'est la fin du monde. Mais la vie est toujours là. Ce qu'on peut en déduire, c'est que même si on n'est plus là, la vie continue.
Le dernier souper est à découvrir en ce moment à la galerie Valérie Delaunay, rue du Cloître-Mérie à Paris, et ce jusqu'au 1er février. Une des chaussures en os de Corinne Bornier est présentée à l'exposition sur la marche qui se tient en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris. La marche et la démarche est à voir jusqu'au 23 février. Et pour en savoir plus sur le travail de Corinne Bornier, artiste protéiforme, qui n'a pas consacré sa vie uniquement à l'os, rendez-vous sur son site internet www.corinnebornier.com.
Merci Céline pour cette entrée. Corinne Bornier de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Monsieur Beer, ça vous inspire les sculptures faites de petits os délicatement ajointés?
Oui, j'ai vu le corset qui est magnifique, qu'on ne peut pas mettre partir, évidemment. Hein. Mais oui, et j'aime beaucoup le poulet aussi, donc ça peut donner quelques envies de création soudaine.
Antoine Guillot.
Non, mais c'est vrai que c'est très délicat. Ça fait penser à d'autres sculptures qui ont pu être faites dans le même genre. Moi, je pensais à Tingly avec ses os de vache animés comme ça pour l'éternité. Donc, on laisse même pas tranquille après l'avoir dégusté. Là, ça atteint une forme de noblesse, je trouve, cet animal si décrié qu'est le poulet. Et j'aime beaucoup la couronne. Voilà, si j'avais la tête assez petite, je dis pas que j'ai la grosse tête, mais enfin, je mettrais bien cette couronne de poulet.
Voilà, moi ça m'évoque quelqu'un d'autre, qui est Bernard Riquichaud, qui faisait des reliquaires dans lesquels il mettait des os qu'il achetait lui-même dans les abattoirs et sur lesquels il projetait de la couleur, des espèces de louches de couleurs. Mais c'était la différence, c'est que autant chez Corinne Bornier, c'est la délicatesse, la finesse, quelque chose d'extrêmement fragile, c'est ce qu'elle dit, autant les autres travaillent sur des l'os, une véritable, un peu comme chez Kubrick, là, l'os sert de massue, donc il y a la massivité, la fragilité. J'avoue que c'est une exposition totalement fascinante. Donc, bravo et merci, ma chère Céline.
Il faut y aller, donc.
Et maintenant, l'heure est venue de s'orienter vers un autre univers où il y a des os également, mais de manière un petit peu différente, l'univers de Charles Burns. Alors parmi les rêves de mauvais genre, il y avait la rencontre de Charles Burns. Et bravo, enfin, cela s'est produit grâce à la Galerie Martel et aux éditions Cornelius, qu'on remerciera jamais assez. On présente rapidement, synthétiquement, Charles Burns par Antoine Guillot avant de l'écouter.
Charles Burns, oui, c'est un des sans doute plus connus auteurs de bandes dessinées indépendantes américaines. C'est quelqu'un qu'on avait découvert en France dans les années 80 avec son détective El Borba, qui avait la corpulence d'un catcheur catcheur et le masque du catcheur mexicain et qui menait des enquêtes dans des mondes assez inquiétants. Mais c'est surtout sa trilogie Black Hole qui l'a fait connaître le plus hein, quand ça a été édité en France à la fin des années 90. On l'a tout de suite rapproché de David Lynch parce qu'il racontait des histoires de surface et de ce qui se cache en dessous avec cette bande d'adolescents pestiférés, porteurs d'une mystérieuse maladie. Sauf que chez Burns, l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc ils étaient tous atteints de mutations plus ou moins inquiétantes. Et puis dernièrement, il a exploré la couleur, toujours chez Cornelius, avec la trilogie Toxique, qui est la rencontre un peu du Tintin, de Hergé, de l'Interzone, de William Burroughs. Donc on passait sans arrêt d'un monde à l'autre. Et c'est ces rapports entre des mondes, justement, que va explorer à nouveau Charles Burns avec cette nouvelle trilogie. Les Français sont très chanceux parce qu'ils la découvrent bien avant les Américains, qui ne la connaîtront qu'une fois que l'histoire sera entièrement terminée et rassemblée. Donc c'est à nouveau un premier volume. On ne sait pas encore dans quelle direction ça va aller, mais vous l'avez dit tout à l'heure en citation, hein, ça commence par une sorte d'autoportrait via le reflet dans le chrome d'un gris-peint. Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que j'étais en train de dessiner un autoportrait. C'est ce qu'on entend dans la première case, dans le petit cartouche, et on voit un dessin. Alors drôle d'autoportrait, puisque si on voit effectivement quelqu'un en train de dessiner, la tête est tout à fait spongieuse. On ne sait pas si on est dans un cerveau malade ou dans une sorte d'éponge des abîmes de l'océan. C'est évidemment le livre le plus autobiographique de Charles Burns parce qu'il y raconte comment, dans les années 70, son imaginaire a commencé à être hanté par toute une série de films de science-fiction et notamment ceux qui explorent la question du double, du doppelganger, mais aussi du double extérieur-intérieur. Et c'est tout à fait magnifique, fascinant, et l'occasion pour Charles Burns, en plus de se mettre en danger, car il explore des dimensions graphiques qui, au-delà de son ancrage bien connu, cranté, comme ça, extrêmement méprisé, qui reprend celle des romance comics de la grande époque des années 50-60 aux États-Unis. Là, il va s'essayer au crayon, au fusain et à d'autres matières encore. Donc, Charles Burns remet son métier à l'ouvrage.
Merci Antoine. Les propos de Charles Burns sont traduits par Marguerite Capel. Bonjour Charles Burns. Merci d'accorder cet entretien à Mauvais Genre sur France Culture à l'occasion de la sortie aux éditions Cornelius de Dédale, donc le premier volume d'une future trilogie. Alors, première question qui concerne à la fois tous les auditeurs et les amateurs de Mauvais Genre. Au cœur de ce Dédale, il y a comme Minotaure le film de Don Siegel, L'invasion des profanateurs de sépulture. L'occasion est belle de vous poser la question de l'influence de toute la cinéphilie de genre, du cinéma populaire américain, fantastique, horrifique, policier, sur votre travail de dessinateur et de scénariste. Quels ont été les films qui ont pu vous marquer, qui sont séminaux, comme on dit, et qui aujourd'hui sont encore pour vous, comme le film de Siegel, une source d'inspiration?
I grew up just enjoying and watching.
J'ai grandi en prenant beaucoup de plaisir à regarder des films de monstres.
Famous monster movies on television.
Des célèbres films de monstres qui passaient à la télé et puis plus tard au cinéma.
So it was really just a part of my life.
Donc ça faisait vraiment partie de ma vie en grandissant.
There were television shows.
Il y avait des émissions de télé.
I'd be watching. And my mother
que je regardais,
and
ma mère me voyait like, cachée derrière une chaise, elle me trouvait là et elle me disait « bon, il est temps d'aller te coucher, je crois que ça fait trop peur ». Et
scary.
Je disais « non, non, ça va ». Par exemple, la fiction d'horreur, les films populaires, ce sont des choses auxquelles je ne cesse de revenir dans mes histoires. J'ai par exemple ce personnage de Big Baby. Dans la première histoire, la première histoire que j'ai racontée, c'est le Borba, qui était vraiment inspiré par les films les plus cheap du cinéma américain.
In the current story, I'm talking about
dans l'histoire que je raconte dans ce nouveau livre, je parle de personnages qui réalisent leurs propres films d'horreur en 8 mm.
And, That's something that I did when I was.
C'est quelque chose que j'ai moi-même fait quand j'étais jeune avec mes amis. Et l'idée d'être capable de faire son propre film, c'était quelque chose qui était fascinant et très amusant.
There was no video cameras,
on n'avait pas de caméscope, on n'avait pas de d'appareil à haute résolution qu'on pouvait utiliser. Donc c'était très brut, mais c'était très amusant à faire.
I think because we were a young age,
je crois parce qu'on était très jeunes,
emulate,
on s'encourageait et on imitait les films d'horreur, les films de monstres,
agents,
les films avec des agents secrets,
like 007,
comme 007.
We would get our Sunday clothes on.
On sortait nos tenues de dimanche,
a jacket with a white
une jolie veste, une chemise blanche, une cravate.
And I remember my parents saying, like, why are you,
je me souviens que mes parents demandaient, mais pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? Pourquoi est-ce que tu mets ça pour ton film? Et j'expliquais qu'on jouait des adultes. Et les adultes doivent porter des costumes et des cravates. Mais ça aurait été, par exemple, c'était des interprétations de films comme, par exemple, Psychose. On en faisait une version très mauvaise avec la scène de la douche.
J'avais
un ami, je me souviens, qui avait cette espèce de chaussure dont il se servait, qui tirait, qui traînait pour montrer la scène, pour créer des personnages terribles. Et puis on ouvrait le rideau de douche et il y avait un espèce de gamin maigrichon en maillot de bain. Ça faisait vraiment partie de nos vies.
Another close friend of mine,
un autre ami proche. On pouvait acheter à l'époque des films en 8 mm de très mauvaise qualité.
So you would show, they were captioned, but they were
avec des sous-titres, mais c'était des versions coupées, remontées de films d'horreur. Donc tout ça a joué sur ces idées avec lesquelles je joue dans cette histoire de ce dernier livre.
Ces films en 8 mm, on les voit à un moment dans votre livre. Il y a pour l'anniversaire de l'ami du personnage principal une projection dans la cave comme ça de ces films. Alors très, on est au-delà même du mauvais genre, c'est parfois très série Z, hein, des films comme The Flesh Eaters, le film de Jack Curtis. Il y a des classiques de films de monstres japonais de Ishiro Honda, les envahisseurs à Rodan, il y a ce I Was a Teenage Frankenstein, tout ça vous le dessinez, de même que vous dessinez cette longue séquence où le garçon et la fille dans le livre vont voir le Body Snatchers au cinéma. Est-ce que, première question, vous avez dessiné ces images en revoyant les films que vous voyez à l'époque, ou est-ce que c'est le souvenir que vous en avez, que vous avez couché sur papier? Et est-ce que dans le processus du dessin, vous avez retrouvé les émotions que vous aviez ressenti alors quand vous étiez adolescent?
For drawing the,
pour le dessin,
luckily I have the internet now,
j'ai la chance d'avoir Internet.
I have very strong memories
of, donc j'ai des souvenirs très forts des sentiments, des impressions que m'ont laissé ces films.
But I wanted to have very clear references,
mais je voulais avoir des références très claires, très précises à des images en particulier.
Book.
Et je voulais que ça apparaisse dans le livre.
Especially later in the book,
surtout à la fin du livre, quand ils vont au cinéma
and see Invasion of the Body Snatchers,
et qu'ils voient donc Body Snatchers,
so there's kind of a switch between the,
il y a cette espèce
the
comic,
where the characters,
il y a un passage entre la réalité
and
des personnages de BD et ce qu'on voit à l'écran, une passerelle qui se crée.
In a way, there is kind of a deeper reality that's,
donc il y a une sorte de réalité plus profonde dans les films qu'on voit à l'écran par rapport à la réalité un petit peu qui ressemble à un monde de BD vraiment que vivent les personnages.
Il y a aussi une contamination possible du monde du cinéma, de ce film, l'invasion des profanateurs de Sépulture, puisque plusieurs fois revient dans ce premier volume de cette trilogie les yeux vides et grands ouverts. C'est comme ça qu'il faut être pour ne pas se faire repérer par les extraterrestres. Mais dès le début, le personnage de Brian, quand il est sorti de l'obscurité du film, dans cette projection, à cet anniversaire, la jeune femme qu'il regarde va noter son regard froid et distant. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir tout au long de cette trilogie? Parce qu'on sent que c'est un des points nodaux de votre histoire.
Yeah, I think that the One of the central ideas,
oui, je pense qu'une des idées
again,
centrales,
using the reference from Invasion
encore
the
une fois avec la référence à ce film, Body Snatchers, c'est cette impression de déconnexion, cette impression de perte quand il y a quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qui vous est proche. Il y a une section du livre où ils regardent le film et il y a ce moment de transition entre le personnage principal féminin qui s'endort et qui devient cet autre, quelque chose qui n'est plus elle. Et le personnage féminin de mon livre
there's no happy ending.
You can tell il n'y a pas de fin heureuse. Les choses ne finissent pas bien. Elle dit, on voit bien que ça va pas bien finir. Et je pense que ce serait terrible de dire qu'il n'y a pas de fin heureuse, que ça n'existe pas. Ce serait, évidemment, c'est relatif, mais il y a cette idée de déconnexion. Et c'est effectivement un thème, oui, qui va être exploré dans la trilogie.
Antoine parlait des gens au regard grand ouvert et aux yeux vides. C'est une caractéristique, je dirais, de votre mise en scène, de votre art de la dramaturgie, de la mise en scène, puisque vous mettez en scène des adolescents dans un quotidien américain, je dirais, assez ordinaire, qui font des fêtes, qui se projettent des films, et en même temps, on est confronté à une humanité spectrale, hagarde, qui semble ailleurs. Donc les personnages sont à la fois présents dans le quotidien le plus concret et en même temps on a le sentiment très violent qu'ils sont ailleurs, dans un ailleurs dont on ne sait pas très bien de quoi il est fait. Comment arrivez-vous à créer justement cette simultanéité entre l'évidence du quotidien et le poids, la puissance d'une espèce d'extérieur, d'ailleurs, dont on ne sait pas grand-chose ?
I'm never good at explaining.
Je suis jamais très doué pour expliquer cette partie-là de mon travail.
Not to try.
D'ailleurs, c'est sans doute mieux de ne pas essayer.
But one of the ideas that I return to.
Mais une des idées à laquelle je reviens tout le temps, c'est
the kind of the internal world
that c'est ce monde intérieur qui peut être troublant, plus riche, très dense, très sombre. Et qu'il est bien plus que la réalité quotidienne, la réalité ordinaire. Il y a cette imagerie qui est à la fois personnelle, mais qui est aussi effrayante et très riche, très pleine de symboles aussi. Par exemple, le principal personnage de cette histoire, Brian, est toujours en train de dessiner.
Et les dessins sont très they're very rich and strange.
Et ces dessins sont très étranges et très denses, très riches aussi.
And yet, at some point, you realize.
Et pourtant, à un moment, on réalise, on se rend compte qu'il vient d'intégrer cette fille qui l'attire dans ses dessins.
So, integrating her into the work.
Donc, il l'intègre dans son travail, dans son esprit.
And also into what will eventually be.
Et aussi dans ce qui finira par être un film qu'ils vont réaliser ensemble. Par l'écriture, faire entrer quelqu'un dans votre vie. Par l'écriture, faire entrer quelqu'un dans votre film.
Vous aurez remarqué que nous avons commencé cet entretien par une piste autobiographique. Tout de suite, on a parlé de votre propre goût pour les films. Nous y sommes incités par la toute première case de ce nouveau livre. Je cite, on voit des mains en train de dessiner un personnage à tête d'une sorte de cerveau ou d'éponge, on ne saurait trop dire. Et il est écrit, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que j'étais en train de dessiner un autoportrait. Alors, si vous commencez ce nouveau livre comme ça, Charles Burns, est-ce que c'est pour afficher tout de suite que vous êtes dans l'autoportrait ? Est-ce que c'est pour nous lancer dans une fausse piste, nous, lecteurs ? Et c'est surtout la question du temps qui m'intéresse. Est-ce que ça vous prend du temps aussi, quand vous faites un livre, pour vous rendre compte que vous faites un autoportrait ?
Je pense qu'en fin de compte, tous mes personnages, c'est moi.
Or some part of myself.
Ou une part de moi.
My wife read the book.
Ma femme a lu ce livre.
And she said, "Oh, you're Brian."
Elle me dit, "Bon, Brian, c'est toi, le personnage principal."
And I said, "Well, not necessarily.
Pas forcément.
He's certainly an aspect of.
C'est sûrement un aspect de moi, de ma personnalité.
But I can find my way into the.
Mais je peux me frayer un chemin et trouver aussi ma manière d'être chez le personnage féminin. Elle est aussi très proche de la manière dont je réfléchis, ou en tout cas, elle pense des choses qui ressemblent à ma manière de penser aussi.
So unfortunately. They're all self-portraits.
Donc en fait, malheureusement, ce ne sont que des autoportraits.
Mais est-ce que ce que vous montrez de la pratique du dessin révèle quelque chose de véritable chez vous ? On a l'impression que le personnage de Brian a des images qui l'habitent, qui le hantent, qui viennent de ce monde parallèle dont parlait François Angelier tout à l'heure, et qu'il se couche sur le papier presque indépendamment de la volonté du dessinateur. Est-ce que ça se passe comme ça pour vous ? Est-ce que ces créatures étranges qui hantent tous vos livres presque vous possède, comme on dirait, d'un fantôme qu'il vous hante et qu'il prend possession de vous et que vous découvrez le dessin au fur et à mesure qu'il se réalise.
It's a difficult question.
C'est une question difficile.
There's certainly things that I come back to.
Il y a en tout cas des choses auxquelles je ne cesse de revenir.
I don't know what,
ça, c'est sûr. Et je ne sais pas ce qui m'attire vers ces choses-là.
I tried not to analyze.
J'essaie de ne pas trop analyser ce que je dessine.
I tried not to censor myself in any
J'essaie
way.
De ne pas m'auto-censurer.
Et
j'ai l'impression quand je travaille dans des carnets, que si une image ne cesse de revenir, et bien il faut que je lui prête attention. Donc il y a cette espèce de créature extraterrestre qui flotte, qui est dans ce livre et qui ne cesse de revenir dans ce livre.
And I think I've just maybe unconsciously drawn.
Peut-être inconsciemment, j'ai dessiné ce personnage, ou en tout cas cette chose.
Maybe 10 years ago,
il y a 10 ans, 20 ans, je l'ai certainement dessiné.
It's emerged out of
donc c'est un mélange d'anciens dessins, d'imageries anciennes qui me reviennent.
Charles Burns, on a parfois le sentiment, même souvent, avec vous, de pénétrer dans un inframonde. Où les échelles sont bouleversées. C'est-à-dire qu'un personnage du quotidien est brusquement confronté à une sorte d'organisme flottant ou qui sort du sol, mais qui, lui, appartiendrait, cet organisme, au monde microcellulaire. On a l'impression que le fantastique vient de là, c'est-à-dire que les personnages passent d'un monde normal à un monde microscopique et que ce qu'ils voient, c'est en définitive l'intérieur de leur corps, mais ils le voient comme ils verraient une montagne ou un paysage. Je pense notamment au film de Fleischer, Le Voyage Fantastique, où ces personnages qui sont lâchés à l'intérieur des veines, des artères d'un vivant, sont attaqués par des globules. Par moments, on a un peu cette impression-là, que les personnages sont attaqués par des microcellules, mais qu'eux-mêmes sont devenus microscopiques.
What was the name of the movie that you?
Richard Fleischer, Le Voyage Fantastique, en français.
Yes, I hate to say it,
en
but
fait,
I did see that movie in the theater.
Horreur de dire, mais j'ai
out.
Vu ce film au cinéma quand il est sorti.
There was a certain period where any movie that seemed like science fiction.
Il y avait une époque où tous les films qui semblaient appartenir à la science-fiction, au fantastique, à l'horreur, j'essayais systématiquement d'aller les voir au cinéma.
Now that you mention it,
mais maintenant que vous mentionnez cet exemple, c'est un excellent lien avec
mon travail.
Pour moi, ça apparaît très tôt d'ailleurs dans le livre. Le personnage principal, Brian, s'observe lui-même. On le voit regarder son reflet sur un grille-pain brillant, une surface brillante. Donc c'est une sorte d'image comprimée de lui-même, mais il se voit aussi comme cette créature extraterrestre. Il y a une histoire, en fait, derrière tout ça. Je ne sais pas si elle est bonne, mais il y a des années, j'étais chez un ami,
en LSD.
J'avais pris du LSD
et
un peu de marijuana et d'alcool.
And doing a drawing
et j'étais en train de dessiner d'après un grille-pain.
So some of the
C'est pas de la nostalgie, mais certaines idées reviennent de quelque chose d'intérieur, quelque chose d'intime, un souvenir que j'ai de ce type de moment. Un souvenir vraiment très particulier, très précis. Et je me souviens m'être dit, à ce moment-là, ce serait formidable si une jolie fille entrait dans la cuisine et découvrait à ce moment-là mon formidable dessin qui est si profond. Je peux en fait écrire une histoire où ce genre de choses arrive. Dans la réalité, évidemment, malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça.
Puisqu'on est en quête des sources d'un imaginaire, là où François voit des êtres unicellulaires ou l'intérieur du corps, moi ça m'évoque beaucoup la faune étrange qui peuple les coraux. Et alors j'ai découvert que votre père était océanographe. Et alors je me demande si vous n'avez pas été confronté enfant à ces méduses, à ces anémones et autres êtres biologiques très inquiétants qu'on voit dans ces coraux si beaux.
Yeah, my father was an oceanographer.
Mon père était océanographe.
He didn't work in the biological.
Il ne travaillait pas sur la dimension biologique de l'océanographie. C'est trop difficile à expliquer, mais
he never brought his work home.
Il ne ramenait jamais son travail à la maison.
But on the other hand,
mais d'un autre côté, nous avions une maison remplie de livres.
Et j'ai
évidemment regardé des dessins de ces belles méduses et de ces choses qui flottaient.
Il
y avait beaucoup de livres de photos, d'illustrations que j'ai pu regarder. Je ne savais pas bien, je ne comprenais pas ce qu'étaient ces choses que je regardais. Mais je les regardais très près, ça c'est sûr, et je pénétrais dans ce monde qui m'était complètement étranger. L'un des projets océanographiques de mon père, c'est sans doute une anecdote un peu stupide, mais je vais quand même vous la raconter. Un de ces projets, c'était donc de partir en bateau, d'aspirer des petits nodules de minéraux du fond du plancher océanique et regarder s'il était possible de peut-être trouver des ressources, des minerais dans ce plancher océanique.
Et
je me souviens qu'il était revenu avec cette espèce de petite de carotte de minéraux qu'il avait rangée dans un sac plastique. Et ça ressemblait en fait à une drôle de petite crotte dans du plastique.
That's my story. Sorry.
Donc voilà, c'est tout. C'est fin de mon anecdote.
Il y a quelque chose de nouveau dans ce livre, Charles Burns, c'est la diversité des textures, des dessins, c'est-à-dire qu'il y a votre ancrage habituel, cette utilisation des couleurs qu'on connaît maintenant dans votre manière depuis Toxique, mais il y a la restitution des images de films avec une utilisation d'un noir et blanc un peu granuleux, comme ça, et puis les dessins du personnage, Brian. Et là, tout d'un coup, on a accès à votre dessin, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, mais avant ancrage. Alors, est-ce que vous avez voulu nous dévoiler peut-être un peu plus de vous-même avec ces différentes manières, ou vous-même essayer autre chose que ce qu'on connaît très bien de vous, qui est cet ancrage extrêmement puissant et cranté?
Je crois que, à cause de l'histoire, de la nature de l'histoire, j'aime beaucoup travailler avec le noir et blanc, mais pour cette histoire-là, j'avais besoin d'autres manières de raconter. J'avais besoin de la couleur, j'utilise aussi du crayon, j'utilise aussi des images de type croquis. Du pastel. Je voulais utiliser une autre gamme en fait et essayer d'autres idées. Essayer différentes techniques, mais toujours au service de l'histoire.
Puisqu'on parle d'ancrage, nous avons sous les yeux une sérigraphie éditée par la Galerie Martel, qui est celle de la couverture de votre livre. Mais autant sur la couverture telle qu'elle est, on voit donc cette jeune femme rousse qui nous tourne le dos et qui regarde une forêt sombre et inquiétante. Quand elle est en noir et blanc, il y a une confusion formidable qui se crée entre ses cheveux, la manière dont vous les dessinez et ancrez, et les troncs des arbres. Est-ce que vous êtes rendu compte, là encore, de la similarité entre ces deux textures et de cet aspect un peu rideau, rideau de scène peut-être, que vous nous invitez à ouvrir, si on l'ose?
Yeah, there's a big difference between the kind of richness of the black and white.
Une grande différence entre la richesse du noir et blanc et
how the shapes in the in
la manière dont les formes, dont les lignes fonctionne différemment avec cette technique-là. Pour la couverture, c'était très important pour moi d'avoir ses cheveux roux. C'est ce qui crée réellement le personnage. Cette image d'elle. Mais j'avais besoin aussi qu'elle se détourne de nous. Pour qu'on n'ait que l'impression de qui elle est, de ce qu'elle peut être dans un univers très sombre.
So on the one hand, the black and white.
Donc d'un côté, le noir et blanc. J'aime beaucoup cette sensation, l'impression que ça laisse, les formes qui se répètent. Mais pour le récit, pour la narration, c'était très important pour moi d'avoir ces cheveux roux. Ça fait vraiment partie du récit.
Charles Burns, il y a un motif graphique qui est véritablement emblématique de votre art. Antoine parlait d'un graphisme cranté. Je l'ai sous les yeux. C'est un motif, effectivement, qui présente une sorte de... On dirait un peigne. On dirait des griffes, une petite main griffue. On dirait une feuille avec une espèce de barbule. Est-ce que ce motif graphique a une histoire? Puisqu'il est à ce point présent dans votre art qu'on finit par se demander si c'est une sorte de clé.
I mean, it's interesting to hear... That interpretation.
C'est intéressant d'entendre cette interprétation.
For me, it started as
pour moi, ça a commencé simplement en imitant un coup de pinceau très classique dans la BD américaine.
Moi,
c'était très mystérieux, en fait. Comment est-ce qu'ils réussissent à faire ça? Cette ligne très dense, très nette.
Is showing form and shadow
qui crée des formes et qui crée aussi des ombres et qui crée tout ça avec des lignes.
And I think it, for me it was just a natural progression.
Pour moi, je crois que ça a été une progression naturelle. J'ai commencé par ce dessin très classique des formes pour aller vers quelque chose de plus extrême. C'est venu naturellement. C'était pas tant quelque chose de réfléchi en fait.
It was more just a very slow progression of starting.
C'était une progression très lente, très progressive. Depuis des techniques très classiques jusqu'au moment où je me les suis appropriées.
Est-ce que vous savez, Charles Burns, à ce stade où vous allez avec cette trilogie, il y a plusieurs pistes possibles qui nous laissent suspendus à la fin de ce premier tome. Vous nous laissez entendre que ça va peut-être se finir mal, mais ça peut partir vers une romance classique du comic book américain, les romance comics, comme vous aviez fait Love Nest récemment. Est-ce que vous savez où ça va aller, ou l'histoire se développe par elle-même au fur et à mesure que vous la dessinez?
I have a structure worked out.
J'ai une structure que j'ai déterminée.
Quite a while. So I have a basic.
Ça fait longtemps que je la travaille, donc j'ai une structure
de
base.
I'm happy to allow
Mais
new ideas
ça me plaît de laisser de nouvelles idées arriver au fur et à mesure que je travaille. Donc je n'écris pas tous les scripts.
I'm working on the second book
je ne fais pas
right
tous
now.
Les scénarios, je suis en train de travailler sur le deuxième livre en ce moment.
That have to me,
et il y a déjà des moments, des idées qui me sont venues qui le rendent beaucoup plus puissant et plus riche à mes
so
yeux.
The
Donc j'ai
I
la
know
structure.
Where the characters are going.
Je
I,
sais où les
I
personnages
know the general,
vont. effect that I'm j'ai une idée générale de l'effet que je veux produire, mais je travaille aussi
allowing the story to unfold
en laissant l'histoire se dérouler au fur et à mesure.
And for me, it's much more rewarding because
et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, je découvre des choses que je n'avais pas anticipées.
Merci, Charles Burns, pour cet entretien tout à fait passionnant et que nous attendions de pouvoir faire depuis bien longtemps à Mauvais Genre. Merci beaucoup.
Thanks very much.
Charles Burns au micro de Mauvais Genre. Je rappelle que ses propos étaient traduits par Marguerite Capel. Nous remercions évidemment très chaleureusement Adèle Frostin de Cornelius et Rina Zavalli-Matotti d'avoir rendu possible cet entretien dans les meilleures conditions. Nous continuerons évidemment notre entretien avec Charles Burns à sa prochaine visite, qui sait, pour le tome 2 de Dédale. Mais en attendant, eh bien, quelques chroniques pour terminer ce Mauvais Genre. De Laurent Polleret pour notre playlist post-Noël ce soir dans Mauvais Genre. Alors on termine cette émission avec plusieurs chroniques. La première, revenons sur une artiste que nous aimons beaucoup à Mauvais Genre, qui a donc été la compagne de Coste, Monsieur Beer, Anne van der Linden.
Oui, Anne van der Linden, la poésie, ça sent toujours mauvais.
Voilà,
en fait, c'est une dédicace d'Anne van der Linden que j'ai retrouvée en préparant l'émission sur un de ses livres de 1999, et je trouve que ça, alors c'est certainement une dédicace amusée, mais qui sonne comme un manifeste et qui caractérise bien son travail, et elle n'a jamais changé d'un iota cette conduite. L'art doit puer les viscères, le sang, les règles et même la merde, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans son travail d'illustratrice et de peintre, un travail sur une sorte d'état d'horreur du monde tel qu'il est, tel qu'elle le voit, des images de dégénérescence, de cruauté, d'éventration, de bestialité, de la dévoration des familles qui s'entre-dévorent, un monde de boue. Donc oui, elle avait travaillé avec Coste dans les années 90 et dans des performances, et sur le plan graphique, elle passe de l'abstraction à quelque chose de plus figuratif. Elle éprouve le besoin de réintroduire des figures, des narrations et de raconter des histoires.
Quand elle faisait de la narration, comment arrivait-elle à appliquer son credo d'horreur totale en faisant de l'abstraction? Ça, c'est très intéressant.
Alors, je
ça.
N'ai jamais vu les peintures abstraites, mais elles étaient extrêmement noires et sales. Une de ses amies parlait de Dirty Anne. Donc, je crois qu'il y avait déjà cette saleté, cette horreur dans l'abstraction. Alors là, cette année, en 2019, les amateurs d'Anne van der Linden sont plutôt gâtés. C'est une année faste, puisque j'ai recensé au moins 4 publications. Alors, il y a drôle de dames. Par exemple, chez Caroline Sury à Marseille, une collection qui est inaugurée avec drôle de dames. Alors, je n'ai pas été très convaincu, non pas par les dessins de Van der Linden, mais par le traitement, le titre déjà, drôle de dames, qui est pour moi trop pop par rapport à l'humour grinçant de Van der Linden. Et c'est une brochure qui a été faite sur un mode de fabrication très à la mode maintenant dans le milieu du Gravzine, qui est la RISO en 5 couleurs. Et je crois que ça n'est pas assez franc ni assez sale. Ça adoucit le travail d'Anne van der Linden, notamment sur le plan des couleurs. Je pense que cet artiste a besoin de la rugosité de la sérigraphie, comme le prouve par exemple Péché Mignon, une brochure chez Pump qui sur du papier extrêmement solide. C'est ce genre de papier qu'il faut pour le travail de d'Anne van der Linden. Et je voudrais aussi évoquer une brochure qui nous vient de E-Carré Sterput à Bruxelles, qui a exposé en décembre l'artiste. Et le catalogue d'expo m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a un certain nombre de pages en couleur qui montrent son travail de peintre. Et là, la brochure s'appelle « Petit métier ». C'est un titre assez drôle parce que quand on regarde de près, on se rend compte que les métiers décrits par Anne van der Linden, elle revient à l'étymologie du terme de travail qui est celui de la torture.
La torture,
ce sont des shampouineuses qui font des shampoings avec du sang. Donc on voit les cadavres des hommes dont on a coupé les têtes et c'est avec le sang qui dégouline qu'elle fait son shampoing. Mais ce qui m'a frappé dans les peintures, c'est une évolution en fait. Et à mon avis, elle a atteint une maturité dans son travail. Ce sont des toiles où on oublie la dessinatrice, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, comme elle pratique l'autodérision et qu'elle est d'une modestie exemplaire, elle met cette évolution sur le compte de sa myopie. Donc elle se lance dans son travail, elle ne voit pas forcément bien, elle se recule. Bon, je crois plutôt que c'est vraiment une maturité qui l'a amenée à une peinture que je qualifierais de plus picturale, une peinture plus brute, plus instinctive. Elle se lâche complètement, elle oublie en fait sa technique d'illustratrice qui peut parfois être assez contraignante. Ça peut être laborieux dans le bon sens du terme, ce qu'on voit dans toutes ces illustrations avec énormément de hachures. Et là, elle s'abandonne à une jouissance des couleurs. On l'observe notamment dans le traitement des fonds, avec des aplats qui sont plus irréguliers. Et donc cette liberté d'exécution a, je trouve, rejailli sur l'ensemble de sa composition. Et elle dit ceci, il y a dans la peinture une dimension peut-être jouissive, plus enveloppante, qui enrobe les formes par la matière comme le prolongement organique de l'ossature un peu sèche du trait et du dessin. Donc c'est ça qui m'a en fait frappé cette année dans l'année van der Linden, son travail pictural sur la peinture. Et comme c'est une artiste très généreuse, je vous conseille aussi de regarder son site qui est bourré d'images et notamment de ses fameuses peintures exécutées en 2018-2019.
Livre trouvable où ?
Eh bien chez Sterput, E-Carré Sterput ou tout simplement...
Et à Paris, il y a une librairie.
À Paris, chez Arts Factory, au Mont-en-l'Air.
Au
Regard Moderne. Donc il y a aussi une petite plaquette faite par Olivier Allemann, Happy Birthday, qui montre des très très gros plans de sa peinture. Voilà, il y a au moins peut-être même davantage que 4 brochures cette année. Et j'espère qu'en 2020, on aura un livre important sur la peinture d'Anne van der Linden. Ça, ce serait une idée formidable.
Et nous en parlerons.
On continue nos chroniques ce soir dans Mauvais Genre avec vous Antoine Guillot, la première d'entre elles, Slasher. C'est un mot qu'on a prononcé combien de fois dans cette émission depuis qu'elle existe, Monsieur Beer. Voilà, on va faire un jeu avec nos auditeurs. Combien de fois a-t-on prononcé le mot Slasher à Mauvais Genre depuis 1997? Eh bien, celui qui trouvera aura droit, je sais pas, on va vous trouver un cadeau, rassurez-vous.
Et gratiné. En plus, combien de fois par Jean-Baptiste Thoré, il faudrait voilà. Dire.
Donc, et Philippe Rouillet.
Je ne ferai pas l'injure à nos auditeurs de leur rappeler ce qu'est le slasher,
mais pour les
peut-être deux ou trois auditeurs qui arriveraient et qui n'auraient pas entendu toutes ces occurrences. Hein, rappelons que c'est ce genre cinématographique inauguré plus ou moins officiellement par le Halloween de Carpenter, où évidemment, il y a des antécédents où il s'agit de découper des gens avec des armes coupantes, et en général, c'est plutôt un couteau. Et c'est aussi un instrument de remise à l'ordre, puisque généralement, donc c'est un tueur masqué qui va plus ou moins lacérer ou éviscérer des jeunes gens qui pratiquent des sports sexuels qu'ils ne devraient pas normalement dans un pays bien pensant pratiquer. Donc on se dit, bon voilà, un livre qui s'appelle Slasher, ça va être une énième variation, reprise, néo-slasher, post-slasher, critique du slasher, enfin ce que vous voulez. Mais on est déjà très attiré par cette couverture donc où le titre est écrit en jaune fluo, souligné en ombre comme ça d'un rose fluo. La couverture est rose, mais on a ce visage en gros plan dissimulé derrière une cagoule en cuir sadomaso avec des fermetures éclairs sur la bouche et sur les yeux, et surtout un ancrage déjà qui frappe au premier abord, qui est cet ancrage un peu en pâté de noir comme mazouteux, où on se dit tiens, ça pourrait être du néo Frank Miller, quelqu'un qui reprendrait, et cette jeune femme pourrait être une des prostituées guerrières de Sin City qui renverserait déjà un peu les choses. Alors une fois qu'on rentre dans ce livre, on est dans tout autre chose, on est dans l'Amérique white trash d'aujourd'hui, des banlieues misérables et sordides, et ça commence par deux cases, une d'un rayon de viande au supermarché, avec une jeune femme observant ça et semblant perdue dans ses pensées devant ses étals de viande.
Qui n'est pas Anne van der Linden.
Il y a marqué c'est de la viande de qualité, voilà, quality meat, et puis la case d'en dessous, on a un homme avec une coiffure à la Donald Trump, qui s'avère être un harceleur de bureau, comme il y en a tant, et qui propose à son employé d'avoir une conversation un peu moins formelle, si c'est possible, cette fois. Et on aura déjà dans la première scène où il va lui masser les épaules en lui disant que sa femme n'est pas là en ce moment, donc il la recevrait volontiers chez elle, des plans alternés avec cette jeune femme pétrissant la viande hachée qu'elle s'apprête à acheter dans le supermarché. Donc c'est déjà la chair qui va s'afficher, et en fait on va suivre cette jeune femme. Et déjà, ce qui est assez original, c'est que le tueur est peut-être masqué plus tard, mais on sait tout de sa vie au départ. Elle résumera à la fin un ami compatissant, une fois qu'elle aura la tête en sang et une main en moins. Elle dira, eh bien, en gros, je me suis faite séduire par un usurpateur et je ne jouis que si je vois du sang. Et c'est donc l'histoire d'une jouissance, cette histoire, et d'un amour qui naît par Internet interposé avec un jeune homme qu'elle va rencontrer qui poste des vidéos de lui-même sur une chaîne pornographique comme il y en a tant sur Internet, où il se lacère le torse, et de là va naître un élément déclencheur qui va lui permettre enfin pour elle de passer à l'acte avec tout ce qu'on peut faire avec des couteaux et de découvrir le plaisir sexuel qui vient par là. Sauf que l'histoire se complique forcément et qu'on est pris dans un malaise, mais comme je n'en ai pas eu depuis longtemps en lisant cette bande dessinée, parce que au-delà du spectaculaire, du gore, mais qui est traité de manière très froide, très clinique, avec des couleurs très franches, ça pourrait être une histoire tout à fait quotidienne, racontée de façon charmante, nous entraîne dans les tréfonds de l'inconscient, et d'endroits où on n'a pas forcément envie d'aller chercher, et nous transforme tout à fait radicalement. C'est Charles Forsman qui a fait ça, c'est un jeune homme, un jeune dessinateur américain qui vient du Fanzina. Il vient de connaître son heure de gloire parce que quelque chose qu'il avait fait au début des années 2010, qui s'appelait The End of the Fucking World, est devenu une série télévisée à succès diffusée sur Netflix. Là, je ne sais pas si quelqu'un oserait adapter cette histoire, mais c'est urgent de le lire si vous voulez fouiller les tréfonds non seulement de l'humanité suburbaine américaine, mais de vous-même, hein, parce que c'est là que ça vient trifouiller.
Et c'est édité par
L'Employé du Mois, qui a édité quasiment toutes les autres œuvres de ce Charles Forsman dont on va entendre parler. Il faudra vraiment un jour qu'on le rencontre, cher François.
Eh ben, quand il veut et quand on peut.
Sumographie. Alors là aussi, la chair de la chair, alors encore de la chair, toujours de la chair.
De la chair dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions et dans toute sa masse, là, pour le coup. C'est David Prudhomme, dont vous avez peut-être vu les expositions qu'il a déjà consacrées à ses sumos depuis 2013 à Bordeaux. On l'avait vu il y a l'an dernier, c'était au Pulp Festival, excellent festival à la Ferme du Buisson à Noisiel. Et puis, il était encore cette année à la Maison de la Culture d'Amiens. Alors, il se trouve qu'en 2012, David Prudhomme, comme beaucoup de dessinateurs français, est invité en résidence au Japon, sans trop savoir ce qu'il va y faire. Il est curieux, mais il n'a pas d'appétence particulière. Et puis là, il se retrouve dans une petite ville où se tient une compétition, un tournoi de sumotori. C'est pendant 15 jours, c'est à Fukuoka. Et là, il est frappé non seulement par les rituels, par tout ça, mais surtout voilà, par ces masses de chair et par la grâce et la légèreté avec laquelle se déplacent tous ces hommes. Et il va en tirer une série de croquis d'abord, qu'il va formaliser en dessin, et peu à peu, à force de s'imprégner de cette forme-là, le sumotori devient pour lui une sorte d'icône graphique, comme un élément de langage avec lequel il peut jouer. Et il faudrait, c'est pas souvent qu'on les cite dans des livres comme ça, parce que c'est un très gros livre, un très beau livre, mais qui est magnifiquement édité chez Noctambule. Et c'est Didier Gonard, qui est grand maquettiste de bande dessinée, qui a fait la maquette avec Adeline Richel-Artic. Tout ça est dirigé par Clotilde Vue. Pourquoi je donne leur nom? Parce qu'ils ont offert un vrai écrin à ces dessins. Les corps dans ce livre se déplient littéralement et se déploient. Donc vous avez plusieurs procédés, plusieurs types de papiers différents qui correspondent aux différentes techniques graphiques qu'a utilisé David Prudhomme. Et je crois qu'il a utilisé tout ce qu'on pouvait. Et pour ceux qui ont vu l'exposition, on le retrouve, ce bonheur graphique, dans ce livre qui prend des dimensions extraordinaires. C'est le plus beau livre, je crois, de dessin qui soit paru cette année. C'est à se procurer d'urgence. Et puis il y a des très beaux textes très instructifs de Sonia Deschamps aussi, qui vous apprennent beaucoup de choses sur le sumo, si ça vous intéresse. Toutes les manières. Donc le livre à ne pas rater cette année.
Merci Antoine. De mon côté, je recommanderais de Michel Despalioles Le Testament d'Alceste. Je vous en reparlerai de manière plus détaillée une autre fois, car c'est un fort volume de 800 pages qui tient la part entre Escher et Sade. C'est vous dire à quel point il faut détailler et argumenter. Merci d'avoir écouté Mauvais Genre. Je rappelle les ouvrages évoqués ce soir. Donc Dédale de Charles Burns aux éditions Cornelius, bien évidemment. Sumographie, c'est chez Noctambule. Slasher de Charles Forsman, c'est à l'atelier du mois MOI. Et puis les œuvres de Anne van der Linden, toutes les précisions sur le site. Et donc aucune difficulté pour les retrouver. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Marie Lepeintre, Claire Poinsignon, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Antoine Guillot, Christophe Bire et François Angelier vous remercient d'avoir écouté Mauvais Genre, donc notre dernière émission de l'année. Merci cette année de l'avoir passée en notre compagnie. On espéra que 2020 sera aussi réjouissant. En tout cas, ce semble être le cas, puisque notre prochaine émission, en tout début d'année 2020, le 4 janvier, eh bien, c'est une émission consacrée à Julien Green et à son journal intégral, qui reste aujourd'hui comme un des grands documents sur la gay society et l'homo-érotisme des années 20 et des années 30. Et d'ici là, bonne nuit à tous.